Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la diplomatie vaticane et à la politique étrangère du souverain pontife, le pape François étant, faut-il le rappeler, également chef d'État. La médiation récente de la diplomatie de l'Église dans le rapprochement entre Cuba et les États-Unis est l'exemple même d'une action réussie du Saint-Siège, un cas d'école peut-être, alors que l'on s'interroge sur les chances de succès de la main tendue du pape à Pékin dans l'espoir de rétablir le lien avec les catholiques de Chine, divisé entre deux obédiences, celle de Rome et celle de Pékin. Le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques avec pas moins de 180 États, forts d'un vaste réseau d'ambassades appelé nonciature. Quelques 4000 diocèses dont les évêques sont nommés sur les bords du Tibre à Rome, mais dans le cas spécifique du pape François, plus de 20 000 jésuites sur tous les continents proches du plus illustre d'entre eux. Sans doute, l'action du Vatican n'a-t-elle jamais été aussi visible que sous le pape François. On voit de plus en plus l'Église sortir de son rôle religieux en agissant sur le plan diplomatique, également politique. Le Vatican a-t-il vocation à être sur tous les dossiers? Le pape fait-il trop de politique? Quel genre d'influence incarne-t-il? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Constance Colonna Cesari, journaliste et réalisatrice, auteure de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Dans les secrets de la diplomatie vaticane, aux éditions du Seuil. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle de Golemin, rédactrice en chef adjointe au quotidien La Croix, auteure de plusieurs ouvrages également, dont Histoire d'un silence, pédophilie à Lyon, une catholique raconte, aux éditions du Seuil. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-François Rode, libraire, ancien président de la Procure, aujourd'hui diacre à l'église Saint-Roch à Paris. Bonjour.
Bonjour.
S'il fallait trouver des indices de l'intérêt du pape François pour l'action diplomatique, quels sont, d'après vous, les plus significatifs, Constance Colonna Cesari?
Bon, vous avez parlé de Cuba. Quand on a découvert le scénario de cette médiation, il est tellement extraordinaire que, évidemment, on comprend toute l'inventivité du pape François qui l'a proposé à Barack Obama. Mais c'est vrai qu'en arrivant sur le trône de Pierre, donc en mars 2013, la première destitution, ça a été le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone. Il a mis à sa place un homme qui est un vrai diplomate, le cardinal Parolin. Toute cette équipe de la secrétaire d'État actuellement, elle est extraordinaire, avec des gens comme Cheli, qu'on voit au Venezuela tous les deux jours avec Nicolas Maduro, des gens comme Béchou, Monseigneur Béchou, qui est dénoncé à La Havane. Donc, il y a un staff là qui est particulièrement aguerri. Et le pape a demandé à Parolin, en le nommant, d'être créatif. Et il l'est, on le voit, et ils ont beaucoup d'imagination.
Donc, une diplomatie créative davantage que réactive, Isabelle de Golemin.
Oui, d'ailleurs, Monseigneur Parolin, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, il n'est là que pour ça. Alors que avant, en fait, le secrétaire d'État était à la fois, on va dire, le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Là, il n'est là que pour faire des affaires étrangères. Alors, ceci dit, il faut quand même rappeler qu'on est dans une tradition. Le pape François n'est pas le premier à s'intéresser à la diplomatie. Il y a quand même une grande tradition diplomatique. On dit d'ailleurs que le Saint-Siège, c'est la plus vieille diplomatie du monde. Vous avez parlé des nonces tout à l'heure, qui sont les ambassadeurs. C'est vraiment le premier État qui a eu des ambassadeurs comme ça dans le monde entier. Et il s'inscrit dans une tradition qui a quand même été bien revigorée au XXe siècle, à partir des accords du Latran, finalement, qui ont fait que le Vatican, le Saint-Siège, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est un tout petit État de 4 hectares carrés. Enfin, c'est vraiment rien du tout. Par contre, du coup, comme c'est rien du tout au niveau puissance terrestre, eh ben, il a pu développer une diplomatie qui est différente des autres États, qui n'a pas d'intérêt, on va dire, matériel, et qui peut donc être vraiment sur les idées, des valeurs, et puis éventuellement de la spiritualité.
Jean-François Rode, un indice le plus significatif?
Eh bien, je prendrais peut-être un indice qui paraît surprenant, parce qu'on a l'impression que c'est pour l'intérieur de l'Église qu'il a réuni ce conseil des cardinaux. Or, moi, je pense que ça, c'est vraiment un signe de son ouverture. Il veut vraiment sortir l'Église, et en particulier le gouvernement central de l'Église, de l'Europe, de l'Italie. Il a choisi donc les cardinaux dans tous les continents. Et alors, bien sûr, c'est pour la réforme interne de l'Église, mais il est évident qu'avec ces gens-là, qui sont très clairement ses conseillers directs, il y a là une vision absolument mondiale de l'humanité.
Alors, c'est ce que vous évoquez, c'est cette déseuropéanisation, c'est difficile à dire, de l'Église, Constance Colonna Cesari.
Oui, puis là, c'est vrai que cette tradition de la diplomatie vaticane sur la question européenne, c'est clair, depuis Pie XII, elle a accompagné la construction de l'Europe. Le traité de Rome ne s'appelle pas pour rien le traité de Rome. Il a été avait signé avec l'appui et la vision de Pie XII, qui était de vouloir réintégrer finalement l'Allemagne dans la situation morale dans laquelle elle se trouvait à l'après-guerre, dans le concert des nations, donc l'Allemagne grande nation chrétienne. En plus, à côté de ça, il y avait toute un œcuménisme qui progressait dans les années 48, avant la signature de l'OTAN. Donc ce rapprochement avec les États-Unis, il obligeait justement l'Église catholique aussi à rejoindre les autres églises chrétiennes. Donc tout ce mouvement-là a accompagné donc la construction européenne. Et puis ce pape argentin, là, tout d'un coup, se permet de critiquer l'Union européenne, qu'on a toujours vu comme quelque chose de formidable, d'un progrès. Et la traite de grand-mère stérile, c'est quand même pas très sympathique. La met face à son égoïsme dans la gestion de la crise des migrants. Il ne supporte pas, lui, le cardinal argentin. Ses grands-parents sont des immigrés italiens accueillis. Et l'Argentine, c'est ça, c'est cet accueil de l'immigration qui crée, qui constitue la nation. Donc il ne supporte pas, c'est ce qu'il a dit à Lampedusa. Et cette vision, voilà, elle est très critique, elle est très sévère, elle est nouvelle. Et au contraire, sa diplomatie, donc, et sa vision de l'Église, hein, les deux évidemment vont de pair, c'est de mettre ce centre, cet ancien centre européen, à la périphérie, pour placer les anciennes périphéries au centre. Et les périphéries du pape, c'est-à-dire le centre, c'est d'abord l'Amérique latine, et d'autres, évidemment, terres lointaines, mais l'Amérique latine, c'est clair. Alors, et les peuples autochtones.
On y reviendra dans le détail. J'ai cette question. Est-ce que finalement, il n'y a jamais eu autant de diplomatie vaticane, ou tout simplement, il n'y a jamais eu autant de publicité faite autour de la diplomatie vaticane, Isabelle de Golemin?
Alors, je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de diplomatie vaticane, notamment avec Jean-Paul II. Hein. Il faut se souvenir que c'est un des responsables de la chute du mur et de la démocratisation de l'Europe de l'Est. Peut-être ce qui est nouveau ici, c'est que c'est une diplomatie qui est beaucoup par geste. Alors Jean-Paul II aussi, mais alors là c'est vraiment très fort. De fait, Lampedusa, c'est peut-être le premier acte diplomatique de ce pape. Il va à Lampedusa, qu'est-ce qu'il fait? Il célèbre une messe avec un autel fabriqué avec les débris de bois des bateaux qui ont échoué et qui donc représentent la mort des migrants.
Donc des symboles très forts.
Il fait une année de la miséricorde. Où est-ce qu'il va la commencer? Il la commence pas à Rome. Vous savez, l'année sainte, c'est un truc romain, normalement, on ouvre la grande porte de la basilique Saint-Pierre. Non, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il la commence à Bangui. À Bangui, où il y a des musulmans et des chrétiens qui se tirent dessus. Il va chercher l'imam de Bangui, avec l'archevêque de Bangui, et dit, vous venez ensemble, et on va ensemble commencer l'année de la miséricorde. C'est extrêmement fort, quand même.
Et la phrase, en plus, dites-la, la phrase, c'est génial. Bangui, capitale spirituelle du monde. Qui va à Bangui dire et proclamer que Bangui, un jour, même une seule journée dans l'histoire, va devenir la capitale spirituelle du monde?
Bangui, capitale de la Centrafrique, qui connaît des troubles entre communautés musulmanes et chrétiennes, particulièrement troubles.
Les troubles, et puis c'est vrai que aussi bien les chrétiens que les musulmans, il y a une espèce d'instrumentalisation de la religion. Et voilà, donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, parce qu'il va vraiment au bout des gestes, parce que déjà Benoît XVI avait dit des choses sur les migrants, Jean-Paul II aussi d'ailleurs, mais lui il fait des gestes et c'est ça, je trouve, qui est très fort, des gestes qui sont très cohérents avec lui-même et donc ça marque.
Alors au-delà de tout cela, et je me tourne vers vous Jean-François Rode, finalement ce que l'on voit, alors davantage de diplomatie, davantage aussi de publicité autour de la diplomatie, mais qu'est-ce qui finalement distingue et différencie sur le plan de la stratégie, peut-être de la philosophie même, du pape François par rapport à ses prédécesseurs?
Je pense que, alors, c'est tellement évident, il est très marqué par sa tradition jésuite et parce qu'il y a une très très longue expérience de la Compagnie de Jésus dans une vision absolument globale. Ça a commencé avec Ignace de Loyola, qui a passé les 15 dernières années de sa vie après avoir fondé l'ordre à Rome, et qui a écrit quelque chose comme 6000 lettres, et qui recevait les nouvelles du monde entier. Et il y a une obligation pour chaque responsable jésuite d'envoyer régulièrement un rapport qui décrit la situation de l'action faite par les jésuites, mais la situation... Donc en fait, c'est un réseau d'informations incroyable et toujours extrêmement international. La dernière congrégation générale des jésuites, pour élire un nouveau père général, ils étaient 200, il y avait 65 nationalités. Et là encore, ce n'est pas un Européen qui a été élu, mais un Vénézuélien. comme par hasard, un latino-américain qui a commencé par dire, enfin non, c'est le prédécesseur qui était un espagnol, mais qui avait toujours vécu en Asie. On lui dit, mais alors, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe? Ben, l'Europe, c'est bien, mais enfin bon, ça se passe ailleurs maintenant. Il a dit ça carrément.
Alors, je reste sur le fil jésuite, parce que ça me permet de faire la transition facile, Constance Colonna Cesari, avec la question cubaine. C'est vrai que c'est un élément essentiel de la diplomatie vaticane et de l'aboutissement et du succès dans le rapprochement entre Cuba et les États-Unis.
Oui, Constance Colonna Cesari. Que cette fibre, ce canal de la Compagnie de Jésus, il a fonctionné là. C'est, comme vous disiez, un réseau d'informations unique au monde. C'est un réseau dans le réseau, parce que l'Église catholique, c'est ça. Pourquoi sa diplomatie est efficace et surefficace, c'est que partout dans le monde, elle a des témoins oculaires, elle a des gens qui l'informent. Si on veut apprendre qu'il y a des viols dans le Kivu, et pourquoi ça peut remonter, parce que on peut envoyer des gens très bien formés, de surcroît. Et en plus, à tous les niveaux, dans toutes les couches de la société, c'est-à-dire qu'un nonce, il va dîner un soir avec un chef d'État, et le prêtre, dans sa paroisse, dans les faubourgs de sa capitale, il va recueillir la confession de l'homme de la rue. Et ça, c'est vertigineux d'avoir une telle masse d'informations. Donc, les jésuites, c'est pareil, c'est un réseau dans le réseau. Ça a marché pour le pape François. Mmh. Raoul est fidèle. Ils ont quand même été fermés chez les jésuites. Ils n'ont jamais renié la foi de leur enfance. La dernière des sœurs de Raoul est fidèle était morte il y a quelques années, très fervente. La mère était très fervente. Ils avaient été sauvés par un évêque après l'attaque manquée de la caserne en 53. Et dans la médiation, dans ce plan, ce fameux plan dont j'ai eu la chance d'avoir les détails par le cardinal Ortega, qui en a été un acteur, il n'est pas jésuite le cardinal Ortega, mais il y a eu un alibi de conférence à l'université Georgetown de Washington, université jésuite. Voilà, comme quoi il y a toujours un petit lieu proche du pouvoir, des élites aussi les jésuites, donc qui sont toujours bien placés.
Est-ce que... pour reprendre ce que vous disiez dans la première partie de cette réponse à cette question sur le fil jésuite, on peut dire du Vatican qu'il est finalement l'institution au monde la mieux informée.
C'est ce que disent beaucoup. Enfin, moi, quand j'étais à Rome, souvent discuté avec les diplomates, et c'est ce qu'ils disent tous. C'est-à-dire que, alors, le problème, c'est qu'il y a parfois trop d'informations et que l'administration du Vatican n'est pas forcément très performante, donc elle s'y perd un peu. Mais c'est vrai qu'ils ont à la fois le réseau des nonces, mais ils ont les jésuites, ils ont les dominicains, ils ont aussi toutes les congrégations religieuses du 19e et 20e siècle qui sont missionnaires. Donc, ils ont effectivement une masse d'informations énorme. Beaucoup, beaucoup de gens passent toujours à Rome. Et pour les diplomates qui sont en poste auprès du Saint-Siège, généralement c'est un poste important pour un pays. En France, on met toujours des ambassadeurs assez chevronnés parce qu'ils peuvent comme ça attraper beaucoup beaucoup de choses. Donc c'est vraiment la diplomatie du petit bruit. Mmh. Et ça, c'est une vraie force, parce que ce qu'on dit beaucoup, par exemple, de la diplomatie française aujourd'hui, c'est qu'elle sait plus faire ça. C'est la diplomatie qui prend parti. Bon, maintenant on est vraiment très devenu très.
On l'a vu sur la question syrienne
avec très anti-Bachar, etc. Et du coup, on a absolument plus aucun contact côté russe, côté syrien et côté iranien. Donc là, le Vatican, c'est vraiment l'inverse. C'est une diplomatie un peu impressionniste qui a des contacts partout et qui peut donc, de manière assez fine, jouer comme ça. Il faut pas non plus fantasmer sur la diplomatie vaticane. C'est une diplomatie qui est au service des missions de l'Église. Elle n'est pas là pour faire autre chose. Mais alors, ce qui est intéressant avec peut-être le pape François, c'est que ses missions se sont élargies. Lui, ça dit de la diplomatie, c'est pas simplement entretenir des relations dans les pays où il y a des communautés catholiques et où faire attention à ces communautés catholiques. C'est une diplomatie qui est au service de l'écologie, c'est très important, de l'économie au sens attention à la pauvreté, et c'est ce qui renvoie à l'Europe systématiquement. Donc c'est voilà, il a, on va dire, des objectifs qui sont beaucoup plus larges que simplement attention aux chrétiens auxquels il faut penser.
Le pape est surtout les sujets, c'est ce que je disais finalement en introduction avec cette question. Est-ce que le Vatican a vocation à être sur tous les dossiers? Est-ce que le pape ne fait pas trop de politique, Jean-François Roll?
Ce qui est justement remarquable, c'est par exemple que le pape fait une encyclique, Laudato Si, sur l'écologie, et il intègre complètement la doctrine sociale de l'Église. Il dit on ne peut pas simplement s'occuper de protéger les animaux en voie de disparition, etc. Bien sûr, enfin, c'est une caricature, mais il faut commencer par faire une société humaine, une société juste, une société de paix. Et donc c'est vrai, les objectifs de la diplomatie et de la politique du pape, ce ne sont pas effectivement simplement de protéger les catholiques et de rouler pour les catholiques, c'est de vraiment penser penser à l'humanité tout entière. Et là, à mon avis, là, il n'en fait pas trop. Au contraire, il est tout à fait dans son rôle. Et il n'est pas le premier à le faire. Hein. Le pape précédent avait déjà bien commencé, évidemment. Hein. Mais là, de fait, aujourd'hui, c'est plus accentué.
Il a finalement, Constance Colonna Cesari, une parole universelle qui vient toucher chaque être sur la planète aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi l'un des éléments novateurs du pape François.
Oui, en effet. Alors, il s'impose au monde différemment des autres. C'est pas un moraliste, c'est pas un théologien. C'est quelqu'un qui arrive dans les instances internationales, par exemple à Strasbourg ou à la tribune des Nations Unies, en se mettant en scène comme le représentant du peuple. Et il est perçu comme ça.
Et il est écouté sans arrière-pensée.
Exactement. Et bien au-delà du cercle de ses fidèles. Donc ça, c'est très important. Il s'arroge un nouveau leadership qui, évidemment, parce qu'il l'utilise, il le sait, il est un chef d'État, en bénéficiant de l'influence extraordinaire de l'Église catholique. Donc c'est à ce titre, et il est vraiment reçu comme le représentant du peuple, des peuples, et notamment des plus pauvres, des peuples opprimés, des peuples oubliés, des peuples autochtones. Alors ça, c'est très important, cette dimension aussi vers laquelle il s'avance, dans des pays comme au Mexique, au Chiapas, etc. Quand il promeut justement le cardinal Maradiaga comme leader dans son staff de cardinaux de collège, c'est toujours un latino-américain et c'est surtout quelqu'un qui a une tête d'amérindien. On dirait que pour lui, le pape François, il est toujours trop blanc à ses yeux. C'est un argentin, mais d'origine italienne, et il aimerait être plus noir, plus métissé, pour représenter cette église des périphéries. Son alliance avec Barack Obama, c'est ça aussi. Inversement, Barack Obama sait que c'est intéressant pour lui de s'allier au pape François, mais pour le pape François, c'est intéressant aussi. C'est sa vision mondialiste, universaliste. Et l'Europe, c'est ce vieux centre, stérile, comme il l'appelle un peu.
Alors, vision mondialiste, est-ce que l'on peut dire finalement que jamais aucun pape n'a eu autant de capacité à s'adresser finalement à tous, c'est-à-dire qu'il peut atteindre l'homme dans sa simplicité et puis s'adresser au plus grand de ce monde, avec tout de même, si je ne me trompe pas, si j'ai bien correctement lu votre ouvrage, Constance Colonna Cesari, il a été tout de même assez directif auprès de Barack Obama. Donc on voit quelqu'un avec un charisme peut-être inégalé, Isabelle de Gaulle.
Oui, alors il faut pas oublier Jean-Paul II quand même. Hein. On n'a pas souvent la mémoire. Jean-Paul II était aussi à la fois très populaire et avait été très écouté dans les instances de pouvoir. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui en tout cas, c'est peut-être l'homme aujourd'hui le plus populaire du monde, le pape François. Donc tout le monde veut être avec lui. Rien que cette semaine de Noël, le Venezuela, ils sont venus le voir pour qu'il essaye de débrouiller la situation au Venezuela. En RD Congo, les évêques sont venus le voir pour qu'il essaye de faire un appel pour améliorer les choses. En Colombie, c'est assez marrant, le prix Nobel colombien et président est venu et le pape François a dit moi je veux aussi votre opposant. Il est allé chercher l'opposant et il les a fait se rencontrer. Donc c'est vrai que tout le monde veut être pris avec le pape François. C'est un peu le selfie que les hommes politiques aujourd'hui cherchent, parce qu'il est très populaire, parce que sa parole porte et qu'on sait qu'il peut être utilisé comme tel. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier Jean-Paul II qui quand même avait aussi une vraie politique sur les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'il s'était opposé à l'invasion américaine en Irak. Il avait été quand même très, très sévère et assez écouté de ce point de vue-là. On est quand même dans une tradition. Hein. C'est pas que le
pape François. Oui, mais alors elle était politiquement inverse, parce que son rapprochement de Jean-Paul II avec Ronald Reagan en 82, là,
sur la fin de Jean-Paul II,
voilà. Après,
Jean-Paul II était omnibulé par le communisme.
Ah ben bien sûr.
Donc
voilà.
Toute sa diplomatie était anticommuniste, alors que peut-être ce pape-là est omnibulé par la pauvreté. Voilà. Et donc sa diplomatie, c'est vraiment donner la voix aux pauvres.
Et sur la théologie de la libération, il y a vraiment une inversion idéologique justement du pacte avec l'Amérique.
Jean-François Roth.
Tout à fait d'accord avec Isabelle de Gaulle. Il faut même remonter à Paul VI. Il faut pas être injuste. Hein. Paul VI, c'est le premier à être sorti de Rome, et un de ses voyages essentiels a été d'aller à l'ONU, donc il a été reçu à l'ONU, mais il a décidé aussi de prendre la parole devant cet instant, ce qui, à l'époque, était vraiment presque révolutionnaire. Donc en fait, il y a une longue tradition. Effectivement, je crois que François apporte quelque chose de propre, évidemment, mais on est vraiment dans une histoire où le souci du bien commun de l'humanité est vraiment la ligne directrice de l'action de la papauté.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités sur la diplomatie vaticane, Constance Colonna Cesari, Isabelle de Gaulle et Jean-François Roth. Dans quelques instants, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la diplomatie vaticane et la politique étrangère du souverain pontife. Nous retrouvons nos invités. Constance Colonna Cesari, journaliste et réalisatrice, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Dans les secrets de la diplomatie vaticane, aux éditions du Seuil. Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef adjointe au quotidien La Croix, auteur également de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Histoire d'un silence, pédophilie à Lyon, une catholique raconte, également aux éditions du Seuil. Et Jean-François Rode, libraire, ancien président de la Procure, aujourd'hui diacre à l'église Saint-Roch à Paris. Constance Colonna Cesari, nous avons terminé la première partie de l'émission sur la notion d'internationalisation de la politique vaticane aujourd'hui.
Oui, c'est ça. On parlait bien sûr de Paul VI, le pape du train, de l'avion, de la première intervention à l'ONU. Mais avant Jean XXIII, c'est très intéressant aussi, parce que souvent, son historiographie le ramène inlassablement au Concile Vatican II, évidemment. Mais on oublie quand même, il a été un des artisans de la désescalade dans la crise des missiles à Cuba en 62, octobre 62. C'est l'ouverture du Concile Vatican II et c'est en même temps la crise des missiles. On se dit, il y a des coïncidences de dates qui sont hallucinantes. Et c'est peut-être parce que, justement, il y avait des membres de l'église orthodoxe russe pour la première fois à Rome dans un concile qui était pour la première fois œcuménique que ce pape a pu négocier et vis-à-vis de Khrouchtchev et vis-à-vis de Kennedy pour fabriquer un appel à la paix qui a été suivi des faits. On ne sait pas ce qui se serait passé sans lui. Donc ça commence vraiment sous ce pape. Il y a là quelque chose de nouveau pour moi.
La Syrie. On a vu le pape François faire remettre une lettre au président Assad lui demandant la protection des civils à Alep. Une lettre qui a été remise par le cardinal Mario Zenari, le diplomate du Vatican en Syrie. Il y a eu de la publicité autour de cette lettre, ce qui est assez contraire aux traditions, si j'ai bien compris la façon dont les choses se passaient. L'évolution de la situation en Syrie place le Vatican, le pape, dans une situation plus confortable, inconfortable dans sa relation avec Moscou d'une part, la volonté du pape qu'une solution militaire ne soit pas privilégiée, c'est ce qui s'est pourtant passé avec l'intervention de Moscou, et en parallèle à ça, une relation peut-être, en tout cas un apaisement pour les chrétiens du Proche-Orient, Isabelle de Gaulmin.
C'est très inconfortable en réalité. La lettre qu'il a écrite à Bachar el-Assad n'était pas destinée à être publiée. Et en fait, il s'est fait avoir. C'est-à-dire que c'est Bachar qui l'a publié pour avoir une sorte de caution papale. Hein.
C'est dire la complexité. Le pape est toujours en contact avec
donc,
moi.
Donc ça veut dire que je suis dans le bon camp. Et toute la difficulté pour tout le monde, mais notamment pour l'Église dans cette histoire, c'est de... Finalement, il n'y a pas de bon camp. Le problème, c'est que les chrétiens d'Orient, en Syrie, on l'entend, étaient protégés par le régime de Bachar. Et aujourd'hui, Bachar s'affirme comme le protecteur. Le problème, c'est que les rebelles en Syrie sont et ont tout de suite été infiltrés par les djihadistes. Et aujourd'hui, sont vraiment infiltrés par les djihadistes qui, eux, ne veulent pas de chrétiens en Syrie. Donc, la situation, elle est inconfortable. Il n'y a pas de bon et de mauvais camp, mais il y a quand même un camp qui, aujourd'hui, est sans doute mieux pour les chrétiens, c'est que Bachar gagne avec l'aide de la Syrie, ce qui est terrible. Alors, le pape s'était élevé aussi contre l'intention de Barack Obama et de la France d'intervenir militairement. De toute façon, pour le Saint-Siège, la guerre, elle c'est jamais une solution. Alors, il y a cette expression de guerre juste, sur laquelle on s'est beaucoup trompé en disant, il y a une théorie de la guerre juste. En fait, c'est faux. La guerre, pour le Vatican, c'est toujours la dernière des solutions. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est le dialogue. Et là, après, quand la lettre à Bachar a été rendue publique, il a beaucoup dit, enfin, ses diplomates ont dit, mais c'est simplement qu'on ne veut pas casser le dialogue. Alors, de fait, de l'autre côté, il y a la Russie de Poutine, qui utilise l'arme religieuse en disant, nous, on intervient en Syrie au nom de notre grande tradition de protection des chrétiens d'Orient, qui est une réalité, c'est vrai, mais enfin qui là est quand même un petit peu manipulé. C'est pour ça que la situation est compliquée, mais je pense qu'aujourd'hui, pour les chrétiens d'Orient, et d'ailleurs pour toute la population syrienne, on a avantage à ce qu'il y ait une paix, même si c'est une paix avec Bachar.
Jean-François Rode.
Alors justement, c'est vraiment très compliqué et ça montre aussi quelle est la vraie place de la diplomatie vaticane. Vous l'avez déjà dit un peu tout à l'heure. Effectivement, le Vatican n'a pas de division. Son influence est une influence morale. Est-ce qu'on écoute ou pas, ça ne dépend pas du pape souvent. Hein. C'est-à-dire que on a raison de dire que le pape est très bien informé, l'Église intervient partout, etc. Mais son influence est une influence morale. Et en fait, si on ne veut pas écouter l'appel au dialogue et à la paix, on ne l'écoute pas. Et donc, par rapport à la Syrie, une chose que je crois très positive, c'est qu'on écoute les chrétiens d'Orient, ils sont quand même vraiment aux premières loges. C'est à la fois très puissant, très important, la parole du pape, et ça n'est aussi qu'une parole à être entendue.
Alors, Constance Colonna, César, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. J'aimerais qu'on parle ensuite, on parlera de la Chine, mais de la relation entre le Vatican et Moscou. Mmh. Ce qui est évoqué d'une alliance stratégique entre la Russie et le Vatican.
C'est ce qui crée toute cette complexité aussi sur la question syrienne. Le Vatican, les chrétiens d'Orient ont plus besoin de Moscou, quitte à essuyer les bombardements à Alep. Évidemment, le soutien à Bachar, cette dictature bassiste, ça a toujours été le choix de l'Église, un choix pragmatique, alors évidemment qui est très difficile à justifier, mais c'était vrai avec Saddam Hussein. Il protégeait aussi, Tariq Aziz était chrétien, et il y avait toujours la place. Donc c'était mieux que d'autres représentations des nations irakiennes ou syriennes qui ne laisseront pas de place à d'autres. Donc Moscou défend cet équilibre multiconfessionnel et en même temps qui s'accompagne pas de droits de l'homme. Rome prend ce parti, voilà, parce que ça défend le maintien des chrétiens d'Orient, parce que ça, c'est une priorité absolue qu'il reste des chrétiens dans cette partie du monde, dans Terre Sainte et ailleurs. En plus, ces communautés chrétiennes pour le Vatican, elles ont pour intérêt aussi de maintenir un meilleur dialogue avec les communautés musulmanes. Et si, dit-on à Rome, les chrétiens partent, ça sera encore pire pour les musulmans qui resteront ou pour les communautés non musulmanes. Et Moscou, voilà, c'est un rêve aussi, faut pas l'oublier, de tous les papes. Aller à Moscou.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on verra le pape François fouler le sol de la Russie, là où tous les projets de visite, à la fois de Jean-Paul II et de Benoît XVI, ont fini par capoter, Constance Colonna-Césari?
C'est juste pour ça qu'on a signé cet accord de la Havane. Ce premier pas pour l'unité, donc la diplomatie, c'est aussi de l'œcuménisme. On veut aller à Moscou, et ça c'est depuis Jean-Paul II qui avait échoué, parce que après la chute du mur, il est allé trop vite peut-être. L'église orthodoxe a eu peur des visées prosélytes, de ces nominations d'évêques, en plus polonais, donc ça plaisait pas. Et là, voilà, on essaie de regagner ce terrain, on signe des accords. Voilà.
D'où aussi la non-condamnation formelle de l'annexion de la Crimée, de la question ukrainienne. Isabelle de Gouin.
Oui, alors c'est compliqué. Il faut quand même dire que c'est... Il y a déjà une rencontre entre le pape et Kirill. C'est déjà énorme. C'était pas à Moscou, mais c'est à Cuba. Ça fait quand même 1000 ans qu'on l'attendait. Donc c'était quand même quelque chose d'énorme. Et Kirill, en serrant la main du pape, il a des ennemis à l'intérieur, un certain nombre d'évêques en Russie qui l'accusent d'avoir serré la main du diable. Donc on revient quand même de très très loin. Alors de fait, le problème, c'est que l'église orthodoxe de Moscou est très liée au pouvoir. Et donc a un rôle très politique. Donc c'est compliqué de dialoguer avec une église qui est aussi politisée que l'église de Moscou. Donc c'est là où c'est compliqué, et en plus, elle veut un peu entraîner l'Église catholique dans une espèce d'alliance de civilisation, hein, c'est leur grand terme à Moscou, des chrétiens contre le mauvais monde, les musulmans, etc. Ce qui n'est évidemment pas l'intention du pape François, mais c'est toute la complexité de cet allié qui est quand même un peu compliqué à manier. On dialogue avec lui, mais on n'est quand même pas d'accord sur tout.
Alors la rencontre entre le pape et le patriarche Kirill, en février 2016 à la Havane, c'était la première rencontre depuis le Chili. Je passe sous votre contrôle, Constance Colonna-Césari, de 1054 entre Rome et Constantinople.
Non, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, c'est pas... voilà, il y a eu les conciles de Florence, si je m'abuse, des rapprochements, mais de toute façon, c'est un pas très important, ça c'est sûr.
Alors François arrivera-t-il à se rendre à Moscou, Jean-François Rode, où on passe sur la... Question suivante à propos de la Chine, Jean-François Rode.
De fait, je crois que c'est difficile de répondre à ça. Je crois qu'il y a vraiment un grand désir de parce qu'il y a quand même un rapport très proche avec le patriarche de Constantinople, hein, donc les Grecs. Mais effectivement, l'orthodoxie, c'est aussi la Russie. Il y a effectivement, moi j'ai confiance, mais je ne sais pas du tout si ça va marcher et quand.
Alors, quelle chance de succès pour cette main tendue du pape à Pékin dans l'espoir de rétablir le lien avec les catholiques de Chine, divisés donc entre deux obédiences, celle de Rome et celle de Pékin, Constance Colonna-Césari?
Alors, il se passe vraiment beaucoup de choses. Ça, cette secrétaire d'État actuelle, justement, Paroline, Celli, Monseigneur Celli, c'était un diplomate qui avait signé l'accord avec le Vietnam, qui allait porter parfois des mallettes d'argent en Corée du Nord, comme le faisait le cardinal Etchegaray sous Jean-Paul II, quand il allait comme ça des missions secrètes à Cuba, etc. Donc, il travaille de très longue date. Et là, on en voit les fruits. Il y a une normalisation qui commence à prendre forme. Il y a des nominations d'évêques qui sont possibles en Chine. Mais chaque fois qu'on avance avec Pékin, comme actuellement, en passant par la voie officielle, c'est-à-dire dans la finalité d'instaurer des relations diplomatiques avec Pékin, ça prend forme et puis hop, ça se dégrade et c'est comme d'habitude, c'est vraiment un match de ping-pong. Et là, le Vatican pensait être bien engagé, on en a plein de signes, les nominations d'évêques, c'est quand même important, mais tous les jours, il se passe un petit geste qui montre que Pékin peut-être se moque du Vatican et qui fait dire à l'intérieur du Vatican à plein de gens qui contestent cette réelle politique, parce que on n'a pas employé ce mot, mais vis-à-vis de Moscou, on peut dire que c'est de la réelle politique. Le sacrifice des catholiques, uniate ukrainien, voilà, dans ces événements, l'absence de dénonciation de la responsabilité de Moscou en Crimée, dans le Donbass, etc. Pour des raisons de réelle politique, là aussi, et des gens contestent, disent ce pape se trompe, le secrétaire d'État se trompe, le cardinal Parolin, les hommes comme Chelli se trompe, Pékin, le parti communiste se fiche toujours de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, des voix et des promesses qu'il fait. De toute façon, il reviendra toujours à zéro. Et au contraire, il fallait reprendre une ligne plus offensive, qui était paradoxalement celle de Benoît XVI, parce que Benoît XVI n'était pas du tout un pape diplomate, mais sur la Chine, avec l'appui du cardinal Zen à Hong Kong, avec l'appui de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui a une autre voix, c'est les missionnaires, qui a une autre voix que celle de la diplomatie de la secrétaire d'État, ben, on était sur des choses en disant non, il faut pas se laisser avoir par... Et donc aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un recul, la diplomatie officielle voilà est contestée.
Le problème du pape François dans sa relation avec la Chine, dans sa politique finalement, Isabelle de Gaulmin, c'est aussi que les catholiques en Chine sont eux-mêmes divisés sur...
Oui et non, parce que je pense que le problème c'est d'abord le gouvernement chinois. Il faut bien voir que Bergoglio est jésuite et que son grand rêve quand il est devenu jésuite c'était de partir en Chine. Il a pas pu le faire parce que on a estimé qu'il était assez malade, etc. Enfin bon, il avait pas la santé. Mais c'est comme jésuite, c'est aussi important. Et je crois que le grand rêve caché de son pontificat, c'est de rétablir les liens diplomatiques avec la Chine. Et géostratégiquement, c'est important parce que l'Asie est aujourd'hui un continent où il y a très peu de chrétiens, très peu de catholiques, à part aux Philippines. Mmh. C'est vrai que si les catholiques, si le christianisme n'arrive pas à s'implanter en Asie, quelque part, vu l'importance de ce continent dans la dynamique mondiale, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Donc je pense que son plus grand ennemi aujourd'hui, c'est ce gouvernement chinois qui manie un peu l'eau chaude, l'eau froide, qui va un pas en arrière, un pas en avant, et qui c'est du supplice chinois, on va dire, moins que la Chine de l'intérieur. C'est vrai que les catholiques chinois qui sont restés très opposés aux les farouches adversaires au communisme, etc., sont quand même de moins en moins importants. C'est un peu ce qui s'est passé avec la Révolution française. Hein. On avait à peu près le même jeu, c'est-à-dire qu'il y avait les révolutionnaires en France avaient voulu créer une église nationale, nommer leur propre évêque, et puis à la fin, finalement, les choses se sont arrangées en pardonnant et en disant bah il y a pas les uns contre les autres, il faut que tous les catholiques qui sont en France se réconcilient au moment de la restauration. Je pense que ça, c'est possible. C'est vrai qu'au Vatican, ces gens-là ont aujourd'hui des voix qui les relaient, etc. Mais franchement, moi, je suis allée en Chine, je connais pas mal le pays. Sur place, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas forcément des gens qui sont très opposés au gouvernement. Il y a des catholiques qu'on appelle les clandestins, mais souvent, ils voient les catholiques non clandestins. Il y a des églises où il y a les deux. Il y a quelques zones où il y a vraiment des clandestins très très forts et très opposés à une alliance avec le gouvernement chinois, mais ils sont très minoritaires. Donc je pense que le principal ennemi, c'est d'abord le gouvernement chinois, qui de toute façon, le gouvernement chinois, ce qu'il veut, c'est maîtriser les choses. Donc d'ici à ce qu'ils permettent qu'il y ait une puissance étrangère, parce que c'est comme ça qu'ils voient le Saint-Siège, qui nomme les évêques à sa place, on n'est pas encore là.
Donc la Chine, c'est le grand rêve du pape François, Jean-François Rhodes, c'est aussi peut-être son plus grand défi.
C'est sûr que c'est extrêmement important pour lui, vous l'avez dit, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a déjà eu beaucoup d'évolutions, et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir parler, bien sûr, pendant le secret, avec le cardinal Echegaray, retour de Chine, qui avait été envoyé pour effectivement trouver des solutions. On a pu rencontrer l'archevêque de Shanghai, qu'on a appelé le pape jaune, qui a été celui qui a fait évoluer la position catholique, en disant non, on peut pas être simplement une église de martyrs, une église dans l'opposition. En fait, la revendication du gouvernement chinois que l'église catholique soit chinoise est une revendication légitime, en tout cas jusqu'à un certain point. C'est une position subtile, on l'a accusé d'être vendu au pouvoir, et en fait, il laissait entendre, parce que c'était là aussi, c'est un vieux jésuite, là, pour le coup, formé avant la révolution emmaüiste, disant, en gros et en détail, j'ai l'accord du pape. Et il le dira peut-être pas, mais moi, je peux vous le dire. J'ai cet accord-là quand je défends cette ligne. Donc, c'est un grand rêve, et un rêve très important. Et là, tel que on connaît le pape François, rappelez-vous, le pape François dit toujours qu'il est assez rusé. Et quand il veut quelque chose, ça m'étonnerait qu'il ne trouve pas des... En tout cas, il n'a pas de baguette magique, mais il va vraiment y travailler.
Alors, un autre dossier sur lequel j'aimerais qu'on passe un peu de temps pour terminer cette émission consacrée à la diplomatie vaticane, c'est le discours global du Vatican aujourd'hui à l'égard de l'islam. On abordait rapidement la question musulmane avec vous, Constance Colonna Cesari, tout à l'heure. Discours global à l'égard de l'islam en le distinguant de l'islamisme ou du terrorisme. Est-ce que les musulmans sont réceptifs aux prêches de l'évêque de Rome aujourd'hui, Constance Colonna Cesari?
Le problème de l'islam, c'est qu'il n'y a pas une autorité qui les fédère dans le monde, donc à qui s'adresser, qui veut écouter le pape. En tous les cas, ils essaient, le Vatican essaie de se faire entendre, essaie de rappeler, de réitérer ce message de dialogue qui est celui, encore une fois, là, de la tradition de la diplomatie vaticane, celui qu'avait déjà mis en place le cardinal Thorens à l'époque qu'il était pas encore justement aux manettes, hein, aux commandes des relations avec l'islam, mais il était à la deuxième section, il était ministre des Affaires étrangères, et donc sous les interventions des Bush en Irak, c'était déjà la ligne. Non, il faut pas prétendre fabriquer une croisade judéo-chrétienne contre l'islam, parce que ça va radicaliser encore plus ces tendances islamistes qui veulent proposer, enfin qui s'imposent au nom de Dieu. C'est la même logique que pour le terrorisme. Personne ne parle au nom de Dieu pour le pape. Et il faut continuer ce dialogue patient, s'adresser à toutes les instances, recevoir évidemment les sommités sunnites du Caire, de l'université Al-Azhar. Mais voilà, le plus de voix possible. Et ça, le cardinal Thorens le fait tous les jours, part en voyage, les rencontres. On avait cru un moment, il y avait un rapprochement avec l'Arabie Saoudite qui avait donné de l'argent pour une fondation à Vienne. On se disait, ah, c'était bien, pour une fois que les Saoudiens nous rejoignent, les efforts du Vatican de construire justement cette instance du dialogue. Et puis en fait, c'était une coquille vide, il s'est rien passé, il y a eu juste des millions de pétrodollars investis. Et là, le Vatican a compris que c'était pas la peine de négocier avec les Saoudiens, et on s'appuie partout où il y a moyen de s'appuyer, où il y a moyen d'aller, où il y a moyen de tendre des ponts. Mais voilà, c'est pas une diplomatie bien comprise en Europe, justement, avec le problème de la crise des migrants. Ça, son retour de Lesbos avec des familles musulmanes a été très mal perçu dans certains milieux, mais voilà, cette vision de l'islam dans la vie internationale, elle dérange ailleurs, mais c'est la ligne du Vatican.
Alors, peut-être un mot de conclusion très rapide, la belle de Gaulle,
oui, juste question, pour dire que sur l'islam, il est arrivé sur un champ de ruines. Hein. Il y avait eu le discours de Ratisbonne de Benoît XVI, qui, de manière très maladroite, avait un peu accusé l'islam d'être source de violence, qui fait que toutes les relations entre le Saint-Siège et notamment le Caire ou d'autres, voilà, ont été rompues. Donc là, le pape François essaye de rétablir un dialogue, au moins un dialogue d'hommes, c'est-à-dire voir les gens, sans aller sur un dialogue théologique.
Jean-François Rod.
On disait que la Chine était un rêve absolu pour le pape, mais le dialogue avec l'islam en est un autre, forcément.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Constance Colonna Cesari, journaliste et réalisatrice, auteure de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Dans les secrets de la diplomatie vaticane, aux éditions du Seuil. Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef adjointe au quotidien La Croix, auteure également de plusieurs ouvrages, dont Histoire d'un silence, Pédophilie à Lyon, une catholique raconte, aux éditions du Seuil. Et Jean-François Rod, libraire, ancien président de la Procure, aujourd'hui diacre à l'église Saint-Roch à Paris. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, et également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée aux menaces sur le patrimoine mondial.